Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc,
Bouffon ?
À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
Chez Nouvelles Écoutes, on se demandait si la pomme de terre n'était pas le meilleur aliment du monde. Moi, je disais que non, alors que Laura, qui produit cette émission, elle disait que oui. Et ça nous a permis en fait d'enchaîner avec un débat pour savoir qu'est-ce qui fait qu'un aliment est le meilleur du monde. Alors c'est un débat qu'on n'a pas encore tout à fait tranché, donc je ne peux pas vous donner la réponse maintenant, mais promis, je le ferai dès qu'on aura trouvé. Enfin bref, moi, je pense pas que c'est le meilleur aliment, mais je pense que c'est un aliment très cool. J'aime les pommes de terre parce que tout le monde aime les pommes de terre et que quand on parle patate, bah, c'est pas grave de faire comme tout le monde. D'ailleurs, on ne dit pas trop patate. Boum, premier scoop que révélera cet épisode, et c'est loin d'être le seul. Parce que si c'est un sujet réconfortant, c'est aussi un sujet drôlement riche et pas que en amidon. Et là, on pourrait mettre les rires enregistrés là que je vous avais envoyé la dernière fois pour bien souligner la qualité de ce jeu de mots. Et donc, on va parler de pommes de terre sous absolument toutes ses formes, jusqu'à pousser le truc à parler de sa forme la plus pâte, puisqu'on va parler gnocchi en deuxième partie avec Simone Tondo de chez Racine, le restaurant italien le plus cool du moment.
Quand on parle sous 80 grammes de farine et 1 kg de pommes de terre, c'est très très faible comme rapport. Donc la patate, il faut qu'il soit vraiment vraiment très chaud. Bien écrasé, il ne faut pas de gros mots, il faut une belle pincée de sel et il faut rouler vraiment à l'instant. Il ne faut pas avoir peur que le rouleau ne sorte pas tout de suite.
Mais d'abord, on va éplucher la pomme de terre au max avec Pierre-Brice Lebrun, qui a écrit un livre entier sur le sujet, un livre passionnant où on apprend mille choses. C'est presque un livre scoop sur la pomme de terre où on tord le cou aux idées reçues et je vous jure qu'il y en a. De parmentier à l'origine des frites, vous n'allez pas sortir indemne de cette interview.
J'ai fugué de l'école maternelle, je crois que j'avais 4 ans. Donc je me suis barré pendant la récréation et je voulais prendre un bateau à 3 mâts pour faire le tour du monde. Donc ça, c'était pas... Voilà. Mais en route, comme j'ai eu faim, je me suis arrêté dans une friterie. Et donc je me suis acheté un sachet de frites que le gars m'a servi. Il a appelé la police parce qu'il trouvait bizarre qu'un gamin de 4 ans soit tout seul. Et donc j'ai foiré ma première fugue à cause de ma gourmandise, quoi. Et donc ça me poursuit depuis la naissance, je pense.
Parce que maintenant, vous enseignez le droit et puis vous écrivez des tas de bouquins sur la cuisine, et à chaque fois des obsessions, j'ai l'impression, à chaque fois des trucs très précis. Vous disiez les pâtes, des fois c'est les boulettes, là c'est les
patates. Oui, alors c'est aussi un peu la collection qui veut ça. C'est... Et puis c'est aussi une façon de limiter la recherche, quand on limite un produit. Et souvent je fais des liens. La boulette, c'était quasiment l'introduction des frites, puisqu'en Belgique, les boulettes frites. Et donc ça suit comme ça. Et puis il y a un peu là. Parfois le hasard de la légende. Marco Polo m'a passionné. Est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est parti de là. Mais c'est à chaque fois des produits que j'aime particulièrement. Et je me sers de ces produits pour raconter l'histoire presque de l'humanité. Quoi, parce qu'on croise des guerres, on croise des batailles, on croise des penseurs, des philosophes, des écrivains. Voilà.
Et donc là, c'est le petit traité de la pomme de terre et de la frite. Alors moi, je pensais lire un livre un peu lyrique sur une déclaration d'amour à la pomme de terre et à la frite. Et puis il y avait presque un côté un peu investigation, remettre les choses en place. Parce que vous l'avez dit d'ailleurs, on apprend plein de choses déjà sur Parmentier. Le mythe, comme vous dites, de Parmentier, qui en fait était un escroc peut-être ?
Non, c'est un très grand communicant. Aujourd'hui, il serait
Élysée
peut-être. Voilà, il y a déjà Catalyse. C'est-à-dire, il a survécu au roi, à la révolution, au directoire, au consulat, et il a été médaillé par l'empereur. C'est-à-dire, c'est à peu près le seul qui a pu être important sur chacun de ces régimes, reconnu avec des responsabilités, et donc il a extrêmement bien communiqué. Mais son truc, c'était pas de faire manger de la pomme de terre. D'ailleurs, on en mangeait et on en cultivait. Donc, on en cultivait et on en mangeait à 50 km de chez lui avant sa naissance. Et donc, il a rien inventé, Parmentier.
Oui, parce qu'aujourd'hui, sa place dans l'histoire, entre autres, c'est lui qui a inventé ou introduit la pomme de terre en France. C'est lui qui a un plat à son nom, le hachis Parmentier.
Oui.
Une station de métro parisienne aussi.
C'est lui aussi. Voilà. Il habitait par là.
Alors qu'en fait, comme vous dites, il a pas du tout inventé la pomme de terre. Le hachis Parmentier, on ne sait pas vraiment si c'est qui l'a inventé.
Non, on ne sait pas, non.
Et en fait, la pomme de terre était vraiment utilisée dans plein d'endroits, bien avant que lui la pointe du doigt,
même
en France.
Ah oui, même en France. Entre autres, aux alentours de Montbéliard, on la mange depuis le XVIe siècle. On la cultive et on la mange depuis le XVIe siècle. Et à côté de chez lui, il y a eu un procès, donc j'ai retrouvé des jurisprudences, c'est l'intérêt d'avoir petite compétence en droit, j'ai retrouvé des jurisprudences où les paysans poursuivent les dames chanoinesses de Maubeuge qui veulent une taxe sur la pomme de terre. Et c'est sûrement pour ça que la pomme de terre s'est pas installée en France et qu'elle est restée un peu cachée, c'est que l'Église ne percevait aucune taxe parce que c'était pas un fruit et pas un légume. Et donc, ce procès, donc juste à côté de chez Parmentier, les cultivateurs ont gagné puisque le tribunal a dit non, ce n'est pas un fruit, non, ce n'est pas une racine, donc non, il n'y aura pas de taxe. En fait, Parmentier, toute sa vie, a voulu faire du pain avec la farine de pommes de terre, la fécule. Ça ne marchait pas. Il a quand même ouvert une école de boulangerie, ce qui est pas mal quand ça ne marche pas. Et quand il s'est rendu compte que ça marcherait vraiment pas, il a récupéré les travaux d'autres, dont le chevalier Mustel qui était à Rouen. Il a récupéré ses travaux pour les signer, en fait, un plagiat, et pour dire c'est moi. Voilà.
Incroyable. On apprend aussi plein de choses. Par exemple, patate, ça se dit pas vraiment pour la pomme de terre.
Non, la patate, c'est la patate douce normalement. Voilà. En fait, quand la pomme de terre est arrivée en Europe, première moitié du XVIe siècle, on l'appelait papas. La première fois où on a une trace écrite de la pomme de terre à un niveau important de la société, c'est le roi Philippe II qui l'offre au pape. Et le pape, il s'appelle papas aussi. C'est un peu embêtant de lui offrir des papas, enfin voilà. Et donc, ils sont passés à batatas.
Ok, voilà. Et c'est comme ça petit à petit qu'on a
c'est
fait...
C'est comme ça que, voilà.
Et comment vous travaillez pour aller chercher des... C'est bien que c'est un temps considérable passé dans des bibliothèques, dans des archives, pour trouver les comptes rendus de... tous les gens qui ont mentionné au moins une fois dans leur vie la pomme de terre.
Oui, c'est vrai. Alors, Internet aide énormément. Il y a des bases de données assez importantes en français, en anglais. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a aussi déjà beaucoup de travaux d'historiens. Et donc, je me suis inspiré des travaux d'historiens, je ne suis pas historien, mais d'historiens de la gastronomie. Et entre autres, sur la pomme de terre, il y a Pierre Leclerc, qui est un prof de fac, mais lui, c'est vraiment son métier, d'enseigner l'histoire de la gastronomie en Belgique. À Liège, il a énormément travaillé sur l'histoire de la pomme de terre, et donc on se connaît bien, on a échangé, voilà. Et donc, le travail, il part un peu dans tous les sens. Il peut y avoir des recherches généalogiques, il peut y avoir des recherches historiques, il peut y avoir des recherches à la Bibliothèque nationale de France. À chaque fois qu'ils me voient arriver, ils sont un peu inquiets parce que j'ai cherché l'andouillette dans des manuscrits médiévaux, j'ai cherché la saucisse de Montbéliard dans des manuscrits médiévaux. Et donc, c'est vrai, quand ils me voient arriver, ils se disent « Aïe, qu'est-ce qu'il va nous pondre ?»
Voilà. De nous sortir des
Par contre, pour le camembert, j'ai dû beaucoup me rapprocher des registres paroissiaux, donc des bibliothèques des diocèses. Et là, c'est intéressant parce qu'en général, on leur pose des questions pas passionnantes. Quand je suis arrivé en disant « je retrace l'histoire du camembert », là, pour le coup, ils ont ouvert les portes, ils ont ouvert les registres. Voilà, ça changeait un peu, quoi.
Et c'est vrai que c'est passionnant parce que moi, j'ai lu des livres d'histoire très ennuyeux alors que ça parlait de guerre. Et là, ça parle de pommes de terre et ça m'a passionné, ça m'a captivé. J'ai appris vraiment plein de choses. Déjà que la pomme de terre, ça fait très longtemps partout ailleurs qu'elle est cultivée avant d'arriver en France. Les Aztèques.
Les Aztèques, vous avez de la purée mousseline.
Oui, ça,
en fait,
voilà. Ce que j'allais vous dire, les Aztèques sont les premiers à faire de la purée mousseline parce que peut-être c'est eux parmi les premiers à la valoriser, à ne pas passer à côté et même à vouloir la conserver.
Ah oui, parce qu'en fait, le hasard fait qu'elle pousse chez eux. Hein, c'est originaire du Pérou, de la Bolivie. Donc, ils la trouvent comme ça. Et puis, comme à chaque fois que les hommes ont trouvé un truc qui poussait, ils se sont dit, tiens, comment ça se mange? Donc, ils ont dû développer pas mal de recettes. On sait qu'ils faisaient les pommes de terre sous la cendre, donc le coup du barbecue. Voilà, ils faisaient plein de choses. Il y a même une ou deux recettes qui se rapprochent quand même un petit peu de l'omelette espagnole.
La tortilla.
À la tortilla, voilà. Et puis, bah oui, ils ont eu l'idée de déshydrater les pommes de terre avec des étapes successives assez compliquées pour la garder dans le sol, gelée en hiver. Ils la sortaient, ils la plongeaient dans l'eau bouillante pour se faire une espèce de mixture qui ressemble un peu à une purée. Donc, ils ont inventé la purée déshydratée. Ouais.
C'est fou. Et aussi, alors j'ai appris, vous m'avez empêché un peu de passer pour un idiot auprès d'amis, parce que alors moi bêtement et je pensais que la truffade c'était un truc à base de truffe, enfin je connaissais
tout le monde
le plat, je me disais bon il y a peut-être des versions avec et sans, en fait pas du tout, la truffe c'était le nom, un des noms
de la pomme de terre. En fait, quand elle est arrivée en Italie avec Philippe II, on l'a appelée, on a donné des noms de truffes parce qu'elle venait de sous la terre. Et ça a été l'objet de beaucoup de controverses historiques sur la pomme de terre. Parce que, on l'appelait donc Tartafuli, ça donnait Kartoffel en allemand. Et donc, on l'appelait comme une truffe. Et il y a des recettes où les historiens se sont dit, alors c'est quoi concrètement? C'est des truffes ou c'est des pommes de terre? Et il a vraiment fallu creuser, et entre autres, Pierre Leclerc avait beaucoup travaillé sur les recettes d'un cuisinier belge très connu qui s'appelle Lancelot Ducasteau, qui a 4 recettes de tartoufle. Et donc, tout le monde disait, voilà, c'est le Belge qui a inventé la pomme de terre. On a même raconté tout un temps qu'il avait inventé la frite. Et en fait, en creusant un peu la façon dont il les cuisinait, etc., il semblerait que ce soit vraiment des truffes et non pas des pommes de terre. Mais on a espéré, quoi, voilà. Et donc, on l'a appelé longtemps truffole. On trouve des truffioles en Ardèche, voilà. Donc, elle a gardé ce nom de truffe très, très longtemps.
C'était l'aspect qui faisait qu'ils confondaient les deux?
Oui, et puis le fait que ça venait sous la terre. Donc, c'était un peu crade. Quand ça venait sous la terre, c'était pas...
Pourtant, le goût n'a rien à voir.
Ah non, non, rien du tout.
Et pourtant, ça allait suffire.
En même temps, quand on voit comment les Romains ou le Moyen-Âge ou juste après la Renaissance cuisiner la truffe, ils la cramaient, ils en faisaient. Enfin voilà, ils étaient pas du tout dans l'utilisation de la truffe aujourd'hui.
Oui, de la râper légèrement.
Ouais, non, c'était du gros. Enfin voilà, il la bouillait. Enfin, il faisait quasiment. C'est pour ça que les recettes étaient les recettes de Lancelot du Castot. Certaines pourraient franchement être des recettes de pommes de terre, sauf deux trois petits détails qu'on a fini par mettre à jour. Quoi.
Et comment la pomme de terre passe de un truc quasiment négligé où on l'utilise pour faire du pain ou on considère que c'est ni vraiment un fruit ni enfin il y a un peu un mépris, c'est pour décorer, c'est et qui d'un coup passe, enfin d'un coup peut-être pas forcément d'un coup, mais qui maintenant aujourd'hui c'est le Graal, tout le monde en mange, tout le monde aime ça, tout le monde on en fait à toutes les sauces, si je puis dire.
Je pense que c'est d'abord la facilité de la culture. C'est extrêmement facile à faire pousser. On peut faire pousser sur son balcon. Hein. Moi, j'ai un jardin, mais j'ai une tour à patates sur une terrasse. Donc, ça pousse hors sol, dans de la terre qui est sur la terrasse. Et j'ai des récoltes, du coup, toute l'année. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Quand elle est bien à l'abri, la pomme de terre, elle peut pousser plusieurs fois par an. Elle se conserve assez facilement. Elle est très nourrissante. Je pense que c'est comme ça que c'est venu. Ça pousse facilement à peu près n'importe où, dans n'importe quel type de sol. Je pense que ça s'est développé comme ça, comme quelque chose qui s'imposait quasiment.
Voilà. Et en lisant le livre, en parcourant aussi, parce qu'il y a aussi des recettes dans le livre, il y a énormément de recettes de pommes de terre. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je ne savais pas qu'il y en avait à ce point. Et je me disais, c'est drôle parce que la pomme de terre, c'est à la fois quelque chose qui a été traité de manière très basique, très populaire, une simple purée. Et encore, on va voir qu'une purée peut être traitée manière étoilée. Mais même des pommes de terre revenues comme ça à la poêle. Puis après, il y a aussi tous les pommes de terre soufflées, les pommes de terre tournées. C'est-à-dire que ça va à la fois du cuisinier très, très, très basique, même pas vraiment cuisinier, au chef étoilé, c'est dingue pour un produit comme ça.
Oui. Si vous voulez déguster un bon caviar, souvent on vous le sert sur une bonne pomme de terre. C'est on creuse un peu la pomme de terre qui sert à d'écrin au caviar. Pour des truffes, on en parlait, une bonne purée ou des pommes de terre comme ça sur laquelle on va râper une truffe. Oui, effectivement. Et puis c'est pas cher, donc ça peut être pas mal pour l'étudiant fauché. C'est facile à cuisiner, on met dans de l'eau, ça finit par être cuit au bout d'un moment. Voilà.
Il y a aussi la purée de roquette. C'est pas la seule truc qui a fait la gloire de Robuchon, mais qui a été
c'était son
pour partie sa signature. Je sais que j'ai un ami qui m'a raconté qu'il était chez les bras à l'aïeul et qu'il servait un aligot à un moment.
Oui.
Et pourquoi aussi les grands chefs ont ce respect de la pomme de terre?
Je sais pas, je pense que d'abord elle se prête à beaucoup de préparation. C'est-à-dire, je pense que c'est infini la pomme de terre. On peut vraiment parler des pommes de terre soufflées, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Selon la façon dont on la cuit, elle change complètement de goût. Certaines variétés vont encore plus changer le goût. Je pense que c'est ça, la possibilité qu'on a de la travailler absolument, de toutes les façons possibles, qui fait qu'elle est très appréciée. Et puis une bonne pomme de terre, en plus, très franchement, c'est bon.
Oui,
il y a ça aussi, quoi. C'est que c'est vraiment bon, quoi. Vous parliez de la pomme de terre à la poêle, la graisse de canard dans le sud-ouest. C'est simple, enfin un peu de persil, un peu d'ail, et c'est un festin, alors que c'est une bête patate, quoi. Même si on ne dit pas patate.
Je vous ai eu.
1-0.
C'est vrai d'ailleurs qu'on peut l'accommoder de tout. J'ai vu qu'on ferme un jus de pomme de terre.
Oui. Alors j'ai essayé parce que toutes les recettes sont testées plusieurs fois. C'est mes enfants me haïssent au bout d'un moment quand je leur fais manger. C'est le pois chiche qui était le plus difficile. Le lit sur le pois chiche. Je vous avoue qu'après un mois de pois chiche à tous les repas, j'ai failli me retrouver célibataire. Mais oui, un jus de pomme de terre. Alors c'est absolument immonde. Mais il paraît que c'est très très bon pour la santé. Alors c'est très très bon à boire. Enfin très très bon pour la santé.
Pour la santé à boire. Oui.
Et c'est très très bon aussi à se mettre sur le visage.
Okay.
Par contre, c'est nickel contre l'acné. Alors d'accord. Ça j'ai testé. La pomme de terre crue. Se frotter le visage avec une pomme de terre crue, un morceau de pomme de terre crue, c'est extrêmement efficace contre l'acné.
C'est vrai?
Ah oui, mais c'est efficace pour plein de choses. L'eau de cuisson des pommes de terre, vous pouvez désherber l'allée du jardin, par exemple.
Okay.
Et ça marche vraiment. Alors, plus elle est chaude, plus ça marche. Mais l'amidon contenu dans la pomme de terre alors, tue complètement les herbes pour nettoyer les cuivres, pour nettoyer les tuyaux, tous les robinets, les machins, tout ça. La pomme de terre, c'est absolument magique. Pour nettoyer les vitres aussi, si vous voulez que ça brille, une pomme de terre. Enfin, c'est vraiment très étonnant, la pomme de terre. On peut en faire absolument n'importe quoi. On fait une peinture de pomme de terre, Oui, c'est très très drôle ce
c'est
légume.
Vrai que vous dites ça et je me dis, c'est vrai qu'il a servi à tellement de choses aussi, à sauver des peuples de la famine, sauver des armées.
Oui.
L'Irlande a quasiment ça, c'était l'Irlande, donc le pays
qui a été
complètement sauvé de la famine par la pomme de terre.
Et alors ça, c'est très drôle parce que quand je fais la conférence sur la pomme de terre, je raconte qu'en fait, le responsable de la mort de Kennedy, c'est Philippe II d'Espagne au XVIe siècle, puisque c'est lui qui a envoyé l'invincible Armada attaquer l'Angleterre. L'invincible Armada a non seulement perdu, mais s'est fait prendre à revers. Donc pour fuir, elle a fait le tour de l'Angleterre. Et en redescendant, beaucoup de bateaux se sont échoués en Irlande. Et donc, les marins espagnols se sont retrouvés avec les Irlandais. Il fallait réparer les bateaux, il fallait survivre. Ils ont échangé ce qu'ils avaient, les pommes de terre. C'est pour ça que la pomme de terre est arrivée en Irlande. Et quelques années après, le mildiou de la pomme de terre a totalement tué les récoltes. Et beaucoup, beaucoup d'Irlandais, des centaines de milliers d'Irlandais, ont émigré aux États-Unis, dont les descendants de Kennedy, de Reagan, etc. Voilà, donc je fais le parallèle entre Philippe II et Kennedy.
Et alors, évidemment, votre livre, la moitié, c'est la pomme de terre et l'autre moitié,
c'est la frite.
Simplement la frite. C'est-à-dire que c'est pour montrer la signature belge. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup de la pomme de terre pendant une moitié, mais on va quand même laisser de la place à une façon de cuire la pomme de terre.
La frite.
Vous avez pris des cours.
Alors, j'ai fait une formation. Ah oui, c'était drôle. Une formation de frituriste.
C'est ça, frituriste.
Frituriste, voilà. À Tournai, en Belgique, dans un centre pour formation de demandeurs d'emploi. Donc, ils m'ont accepté en candidat libre. Parce que d'abord, j'étais pas inscrit à l'Agence pour l'emploi belge. Enfin, voilà.
C'est un truc de reformation. C'est-à-dire, pour les gens qui cherchent un emploi, ils vont leur dire,
oui,
y a ça.
En fait, ils se sont rendus compte que dans les friteries belges, à mon époque, on disait friture, donc j'ai un peu de mal. Maintenant, ils disent friterie. Dans les friteries belges, bah, souvent, ils cherchent à embaucher. Le patron cherche à embaucher. Ils tombent. Ils ne trouvent pas d'ouvriers qualifiés. Et faire des frites, ça ne s'improvise pas, figurez-vous. Et donc, ils ont une formation de plusieurs mois, parce qu'il faut aussi leur apprendre à gérer, leur apprendre, enfin, voilà, les normes d'hygiène. Et moi, j'ai fait tout le module sur la frite en elle-même, c'est-à-dire la fabrication de la frite. Oui, 15 jours quand même, enfin 2 semaines.
Parenthèse, vous dites que ça s'appelait friture avant, maintenant ça s'appelle friterie, parce qu'en fait, avant, on considérait que le truc central, c'était le moyen de cuisson, et maintenant, on considère que c'est la pomme de terre ou...
Alors oui, je pense que c'est plutôt une querelle français, francophone, néerlandophone, okay. Où friture faisait... voilà, ça ressemblait trop au flamand, friture. Et donc, ils ont voulu faire friterie belge, enfin friterie francophone et friture.
Ok, d'accord.
Voilà, je pense que c'est de là que ça vient.
Et donc, les cours, on vous apprend la pomme de terre, la découpe.
Oui, la découpe, le travail, la cuisson. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est compliqué parce que, en fonction de la variété de pomme de terre, il faut savoir combien de temps la faire cuire. Et donc, les stagiaires qui étaient là, qui avaient déjà commencé à bosser avec moi, avant moi, m'expliquaient qu'en fait, c'est à l'oreille. Quand je disais, mais quand est-ce que c'est cuit? Ils me disaient, bah, tu regardes, tu vois bien, tu entends, enfin, t'entends quand la pomme de terre chante. Et donc, effectivement, le frituriste, il arrive à savoir quand il faut qu'il sorte ses pommes de terre. En fonction de la saison, la pomme de terre n'est pas la même, donc la cuisson n'est pas la même. Et puis, il faut connaître toutes les sauces, il faut avoir les gestes pour, parce que la cuisson belge, c'est très important, hein. C'est une première cuisson, une seconde cuisson, un repos entre les deux, enfin, c'est voilà.
Oui, c'est vrai que ça a été beaucoup, à Paris, enfin, en France, plutôt, il y a eu une mode de redécouvrir la cuisson belge, donc beaucoup de gens la connaissent, mais je pense qu'on peut quand même en parler en détail.
Ah oui.
Donc première cuisson.
C'est à une graisse animale. Mmh. En Belgique, maintenant, c'est du blanc de bœuf, on appelle ça comme ça. C'est la marque, blanc de bœuf, c'est un nom déposé. C'est une graisse de bœuf, en fait. Ça ressemble à des blocs de végétaline, qui est une marque aussi, mais c'est du bœuf. En Belgique, on le faisait aussi jadis, plus maintenant, paraît-il, avec du cheval. En tout cas, on ne trouve pas de graisse de cheval très difficilement. Ça donne, paraît-il, plus de goût. Moi, j'en ai mangé une fois ou deux, j'ai pas vraiment vu la différence. Donc, graisse animale, une cuisson de 7-8 minutes à 170 degrés.
Qui va cuire l'intérieur.
Voilà, qui va cuire, en fait, la frite. Ensuite, on sort la frite de la cuisson, on l'étale sur une grille métallique pour qu'elle puisse d'abord se reposer, après le premier bain, qu'elle puisse perdre sa graisse, et on la laisse au moins une vingtaine de minutes. Et deuxième cuisson à l'huile végétale, 175, restons belges, 175 à 180 degrés. Et là, on va la laisser 6 à 7 minutes aussi. Là aussi, tout dépend des variétés de pommes de terre. Et c'est là qu'elle va frire. Ça permet qu'elle soit tendre au milieu, qu'elle soit pas si grasse que ça, la pomme de terre belge, et qu'elle reste, qu'elle soit tendre en même temps croquante en n'étant pas trop grasse. Voilà, ça évite les pommes de terre toutes flasques qu'on peut trouver dans certains fast-foods où la graisse coule.
C'est quoi la place des friteries en Belgique? C'est un lieu aussi de rencontres?
Oui, c'est gigantesque. Je crois qu'il y a plus de 3000 friteries en Belgique. Alors, il faut ramener ça au nombre d'habitants. Hein. C'est moins de 10 millions. Donc, 3000 friteries en Belgique. La frite est culturelle parce que, en fait, en Belgique, la frite, c'est un repas. C'est-à-dire, c'est pas l'accompagnement, c'est un repas. Beaucoup de gens vont en Belgique manger au restaurant et me disent après, oui, mais les frites n'étaient pas très bonnes. Donc, oui, je confirme, au restaurant, c'est les frites surgelées, les frites traditionnelles, parce qu'ils n'ont pas tout cet équipement. Et donc, dans les friteries, on mange des frites. Et au restaurant, on mange des pommes de terre frites qui sont pas forcément excellentes. D'ailleurs, au restaurant en Belgique, il est plutôt conseillé de manger des croquettes de pommes de terre, qui est un truc qui, moi, je me damnerais pour ça. C'est une espèce de purée très épaisse enrobée d'une panure qu'on va mettre dans la friture. Et puis, on va manger les frites en friterie. Ma grand-mère faisait des frites à la maison, mais à chaque fois qu'elle les mangeait, elle disait, elles sont pas aussi bonnes, hein. parce que il n'y a pas les deux bacs, parce qu'il n'y a pas tout ça, voilà. Et donc, oui, c'est un endroit où tout le monde est à égalité. C'est-à-dire, vous pouvez croiser, dernière fois que j'y suis allé, vous avez des gens en costume, il y avait une femme en tenue de soirée, on a l'impression qu'elle allait à l'opéra, il y avait un ouvrier, qui avait dû faire de la peinture ou du plâtre, qui était tout crâne. Et donc, tout le monde se croise à la friterie et c'est le même prix. C'est-à-dire, il n'y a pas des frites de luxe, quoi. C'est-à-dire, que vous soyez smicard ou que vous soyez impôt sur la fortune, bah, la frite, elle coûte 2 euros, quoi, point barre. Il n'y a pas moyen de se la jouer en allant dans des... Alors, en Belgique, ils ont ouvert 2-3 friteries de luxe tenues par des chefs étoilés, voilà, mais c'est plus de la...
De la com ou du marketing.
Oui, de la com ou du marketing. Les frites sont bonnes, mais sont... Voilà.
Et est-ce que, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attention portée à la frite, à la pomme de terre, et j'ai l'impression qu'il y a moins d'attention portée aux fricadelles ou à ces choses-là.
Alors, les fricadelles, on dit on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans.
Oui.
Voilà, on leur donne plein de surnoms, je n'oserais pas dire au micro, mais voilà, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et en Belgique, selon les régions, il y a surtout des boulettes de viande, qu'à Liège, on appelle des boulets, et qu'on sert avec une sauce qu'on appelle une sauce lapin, qui est une sauce dans laquelle il n'y a pas de lapin d'ailleurs. C'est une sauce légèrement sucrée. Voilà. Donc selon les régions de Belgique, on va les servir avec quelque chose. Où, effectivement, un jour la fricadelle, il y a cette fameuse boulette. Et la boulette, je suis allé dans le nord de la France plusieurs fois ces temps-ci, donc j'ai eu plusieurs boulettes, c'est toujours à peu près la même chose. Alors qu'en Belgique, quand vous changez de ville, c'est plus la même boulette. Voilà, Charleroi, c'est des vitoulets. À Liège, c'est des boulets. À Bruxelles, c'est des ballequeus, qui peuvent être faites totalement différemment.
Voilà. Et vous mangez des frites ailleurs qu'en Belgique?
Chez moi.
C'est parce que vous les faites en deux bains, tout
oui,
ça.
Oui, je les fais en deux bains. Oui, j'ai fait installer par un cuisiniste une vraie friterie belge. Et le gars m'a pris pour un grand malade quand même. Enfin, je voyais bien dans ses yeux qu'à Mont-de-Marsan, dans les Landes, le coup de la friterie belge, il ne comprenait pas bien.
Donc, c'est quoi ces
deux cuves avec la grille.
Au milieu pour ça repose, voilà. Une grande hotte autour, j'imagine.
Oui, c'est ça, une grande hotte, parce que ça sent.
Sinon, ça doit sentir.
Donc, quand le midi, les enfants me demandent de faire des frites, j'ai la moitié du collège à la maison. Je fais mon boulot de frituriste.
Ouais, voilà, ça rentabilise le.
Sinon, j'aime beaucoup les pommes de terre frites. Mais alors, c'est autre chose. Hein, les pommes de terre sarladaises, voilà. On n'est pas dans des frites. Et on peut faire des frites à l'huile d'olive, c'est très bon, mais ce n'est pas vraiment des frites. On peut faire des frites à la graisse de canard, c'est très bon, mais ce n'est pas vraiment des frites.
Les frites Pont-Neuf, vous aimez bien?
Les frites Pont-Neuf, c'est comment?
C'est les grosses françaises, apparemment.
Oui. Ce serait l'origine de la frite, quoi, a priori. Oui. Ouais, ouais. Sauf que les pommes Pont-Neuf, à l'époque de la Révolution française, étaient en rondelles. Elles se rapprochaient plus des sarladaises, mais...
Vous ne respectez rien.
Non, je suis désolé. Je vous annonce quand même que la frite est d'origine française et parisienne.
C'est vrai. C'est vrai. Les frites allumettes, alors c'est qu'elles sont plus petites.
Ça, c'est venu après. En fait, en France, ça a commencé par la... On a des traces et j'ai même trouvé une jurisprudence assez rigolote avec un moine qui a voulu tuer un autre moine à Périssy-les-Forges en Bourgogne. Il lui a mis de la mort au rat dans son assiette et donc ça a été vu, ils ont appelé le juge d'instruction, la gendarmerie, tout le truc. Et il y a un PV dans le procès, puisqu'il était condamné aux galères, enfin voilà. Et il y a un PV dans le procès où le juge d'instruction note qu'il y a une écuelle avec quelques pommes de terre frites. Et on est début 17e à Périssy-les-Forges en Bourgogne et on a déjà des pommes de terre frites.
Et c'est cet événement-là qui permet de, en tout cas, de dater...
En tout cas, c'est en Bourgogne, ouais, voilà, à cette époque-là.
Et les sauces alors, pour les frites?
Ah, pour les frites. Alors,
comment on fait?
Là, le problème, c'est qu'en Belgique, on peut s'étriper pour ça. Hein. Oui. On peut se battre. Hein. La sauce de base, c'est la mayonnaise. Mm-hmm. Ça, on n'en sortira jamais. Et puis alors après, dans une bonne friterie, il y a facilement 10, 15, 20 sauces, parfois beaucoup plus. Il y a des nouvelles sauces. Alors, il y a la sauce samouraï qui est un peu ceci. Il y a plein de sauces qui sont des sauces mélangées. Chacun a sa sauce. Et c'est très drôle parce que le frituriste sait quelle sauce prend qui. Il y a vraiment un truc. C'est rare que les gens changent de sauce. Voilà.
On veut dire une anecdote dans le livre sur...
Ah oui, le frituriste qui n'a pas respecté le secret professionnel. Ouais. Alors que je me souvienne, c'est donc un type qui vient une fois par semaine chercher frites pour lui et son épouse. Et donc, il prend, alors j'ai plus le truc exact, mais une frite, un boulet, une fricadelle, machin, et puis deux boissons différentes. Et il prend une mayonnaise et une, je sais pas quoi, les samouraïs. Voilà. Et puis un jour, il vient, c'est pas le jour des frites, parce que souvent en Belgique, on va chercher des frites le même jour, un peu comme mardi, c'est ravioli, quoi, voilà, il y a frites. Et c'est souvent le vendredi soir. Donc il va chercher ses frites un autre jour, et il prend une autre sauce, et une autre boisson d'ailleurs. Et ça se répète quelques fois. Et donc un jour, il vient avec son épouse, et la frituriste, donc la fille qui a été embauchée, lui demande s'il veut la même sauce que d'habitude, et lui sert celle qu'il prend pour, a priori, une autre femme que son épouse, et qui ramène un certain soir. Voilà, et donc ça a fait un scandale et la fille a été virée parce qu'elle n'a pas respecté le secret professionnel
de la
sauce. Frituriste, voilà, un frituriste doit être totalement muet, un peu comme un patron de bistrot. Voilà.
Alors prenez le temps d'un verre d'eau si vous devez vous remettre de vos émotions et surtout procurez-vous le livre de Pierre-Brice Lebrun, Le petit traité de la pomme de terre et de la frite. Et maintenant, on devait aller au bout du bout du bout du sujet des pommes de terre, alors parlons pâtes, parlons Italie, parlons gnocchi. On a fait venir dans notre studio Simone Tondo du restaurant Racine. Petite trattoria près des Grands Boulevards à Paris, ouverte il y a même pas un an, elle ne désemplit pas depuis. Et avec sa gouaille et sa connaissance de la cuisine, je me suis dit qu'il serait le meilleur pour nous parler des gnocchi.
La pomme de terre, déjà, elle doit prendre la farine, elle doit suffire de cette farine pour lier.
Ouais.
Donc il y a un travail sur la réaction de l'amidon, qui est important, et donc pour cette raison-là, il faut une pomme de terre qui a une présence de farine, ou des côtés farineux, et donc beaucoup d'amidon, pour pouvoir prendre l'œuf et la farine. Et donc, de créer un liaison qui est vite fait et parfait. Parce que sinon, on va créer des grumeaux, on n'arrive pas à lier les éléments, et donc on doit arriver encore à en ajouter de la farine. Donc, l'appareil, il n'est pas bon. Donc, il faut une pomme de terre parfaite. Aujourd'hui, on a de moins en moins.
Ah ouais?
Parce que les terrains sont différents, parce qu'il y a moins de pluie. Des fois, il y en a trop. Les terrains, il faut quand même qu'ils soient secs. Comme, vu que la pomme de terre, elle vient des pays chauds. Mais il y a des implantations, par exemple, qui sont faites en France. Par exemple, moi, la pomme de terre que j'utilise, si tu peux me répéter le nom, parce que j'arrive
la
pas.
Binge.
À... Ouais, la Binge. Binge. Elle est d'origine des Pays-Bas. Donc, elle n'est ni péruvienne, ni française, ni italienne, rien. Et maintenant, il y a des implantations qui sont au nord de France, en Normandie d'ailleurs. Et la pomme de terre, elle est née à la fin du XXe siècle. Et les mecs, ils l'inventaient, en fait, il avait une assistante qui s'appelle Bénédictine. Et donc, ça, c'est bien.
Binch. Ah,
ouais. Binch. C'est le diminutif de Bénédictine, un Pays-Bas. Donc, cette pomme de terre-là, elle est très farineuse. Mm-hmm. Moi, je l'utilisais quelquefois. Je pense qu'elle est. À mes goûts, c'est la plus adapte. Après, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un ami, Giovanni Passerini, qui s'est acheté Passerini dans le deuxième. Giovanni, il a fait un consulting cette année, et donc il voulait mettre des gnocchi à la carte. Il me disait, j'ai galéré à trouver une variété qui me rendait content. Parce que c'est pas évident, si tu changes de fournisseur, tu changes de producteur, la pomme de terre, elle n'a jamais les mêmes...
Et parce que même si tu prends une binge chez un producteur, ce ne sera pas la même que la même binge chez un autre producteur, oui, ça peut être différent.
Oui, parce que la terre, elle n'est pas pareille. Ouais. La terre, elle guide tout, de toute façon. Hein. On l'a répété tout le temps, maintenant. Ce n'est pas pour faire les intégralistes et les gens qui font des mouvements. Mais c'est vrai que d'un climat à façon de cultiver, ça change.
Vous parlez beaucoup comme ça entre chefs de vos... Enfin, entre chefs amis, parce que j'imagine qu'il y a aussi des chefs qui sont concurrents.
Oui.
Mais entre chefs amis, vous échangez sur... Par exemple, lui, son résultat de ce consulting, il te le donne, même si toi, tu n'as pas...
Moi, pour un moment, j'ai préféré de travailler avec quelqu'un qui les produisait pour nous.
Oui.
Parce qu'il y avait une régularité sur la production. Après, ça nous arrive d'échanger. Ça t'arrive avec les amis.
Oui, c'est ça. J'imagine que...
C'est même pas une histoire des collègues ou pas. Il y a des collègues qui ne te parlent de rien parce qu'ils ne te connaissent pas.
Ouais.
Nous, quand on se connaît, on sait qu'il y a de la sensibilité, c'est bien. Bah, tu as envie de savoir. C'est comme dans ton métier, quand tu rencontres
quelqu'un
qui fait de la belle radio, tu as envie de tout savoir. Des fois, pour politesse, on n'arrive pas à demander ou pour degré niveau. Moi, je me dis maintenant, je n'ai rien à perdre, donc je demande à n'importe qui. Même s'il rentre, je ne sais pas, du casse rallongé, je lui dis, voilà, comment vous faites ça? Parce que imagine qu'il te le dise, ça change ta vie.
Ouais.
Au moins la mienne, ça me
change. S'il te dit pas, c'est pas grave.
Oui, voilà, j'ai perdu une occasion, c'est tout.
Ouais. Et c'est marrant parce que je pensais aux gnocchi et même les pâtes en général en Italie, mais c'est des trucs qui ont besoin de vachement de surface. Quand tu fais des gnocchi, t'as besoin d'une table énorme.
Oui.
Et tu penses que ça change le rapport à la cuisine? Déjà, ça prend un peu plus de temps, ça demande potentiellement que des gens t'aident. Donc ça permet de sociabiliser, de faire. En tout cas, dans la cuisine domestique. Quoi.
Les espaces sont compliqués parce que. Si t'as grandi dans un espace assez confortable et t'as vu faire à manger plusieurs personnes, interagir, tu le vis comme un moment social. Donc c'est beau et de passer dans un 12 mètres carrés à le faire, c'est chiant.
Ouais.
Même visuellement, tu sais, si tu regardes Julia Child, déjà tu lis ton image de cuisine, un truc beau. Que le faire dans un petit espace, ça peut être frustrant en fait. Évidemment, tout le confort, il donne d'un côté agréable à tout.
Ouais, ouais.
Pas tout le temps, mais dans ce type de choses, oui. Moi, maintenant, j'ai la chance de faire à manger à la maison parce que j'ai un petit et tout ça, donc c'est plus cool. J'ai encore une raison de lui montrer des choses. Après, j'avoue que je faisais moins à manger quand j'avais un appart plus petit.
Mais c'est vrai que sans parler d'avoir une cuisine de 60 mètres carrés...
Non, par an.
Mais c'est vrai que quand tu passes d'une cuisine avec une plaque et un mini-four et juste un truc un peu plus confortable avec quatre plaques, t'as plus envie d'aller y passer du temps, quoi.
Oui.
C'est comme un appartement en fait. Oui. Si t'as un petit appartement, tu vas plutôt aller dehors.
Tu as un fauteuil, tu t'assois, tu mets des livres.
C'est ça.
Ici, tu vois, c'est...
Et tu restes tout le temps.
T'as envie de chiller, surtout tu prends ton temps. C'est que si t'as un petit espace, t'as envie de finir les gnocchi, de les faire vite, de les cuire, ouais. De servir à manger, de laver, de retourner à l'espace.
Mais là, tu t'en fais à chez Racine des gnocchi
on les a fait beaucoup au début. Ouais. au ragoût des jus de bœuf. On les faisait.
C'est toi qui les fais ou c'est...
On les a fait au début, après on a décidé de travailler avec un pastificio parce qu'on ne passe trop.
Pastificio, c'est quelqu'un qui fait des pâtes pour le restaurant.
Ouais. C'est un producteur d'Emilia-Romagna qui nous fait tous nos pâtes base à l'œuf. Mm-hmm. Parce que nous, on n'a pas un labo, on n'a pas d'espace pour stocker autant de préparations. Surtout, on passe, je pense, 5 kilos par jour en plus, en fraîche. Donc, c'est beaucoup d'œufs, c'est beaucoup de stock. Et c'est un choix aussi pour avoir un produit qui est régulier pour les clients. Je ne serais pas capable de reproduire la même chose parfaite tous les jours.
Ouais.
Avec les mains qu'on a et tout ça. Et le résultat, il est bon, les gens, ils adorent. Donc,
oui, ça ne te dérange pas de déléguer cette partie?
Non, parce que c'est leur métier. Non, si c'était une maison industrielle qui faisait ça, j'aurais un peu tordu le nez. Mais c'est comme si je demandais à Joe. Il ne peut pas le faire pour moi pour une évidente raison. Voilà. Et donc, on a demandé à quelqu'un d'autre, sinon ça aurait été automatiquement les choix premières. Mais non, je suis content de ça. On nous donne du travail, on nous donne du super produit. Donc.
Et toi, c'est quoi ta recette des gnocchis?
Ma recette des gnocchis, c'est pas beaucoup de farine. Moi, je mets 80 grammes de farine sous 1 kg de pommes de terre. Et 1 ou 2 jaunes d'œufs par rapport au poids du jaune d'œuf.
Pas le blanc?
Non. Non. Parce que le jaune, en fait, il y a plusieurs écoles après. Il s'est rallié, il s'est redonné un peu de goût, il s'est donné de l'élasticité. Avant tout, c'était pour les couleurs, en fait. Pour rajeunir un peu cette farine. Il y a une autre recette qu'on faisait quand j'ai travaillé en Italie, qui avait 200 grammes de semoule pour serrer la pâte et pour aider en fait à mettre moins de farine. Après, quand on part sur 80 grammes de farine et 1 kg de pommes de terre, c'est très très faible comme rapport. Mm-hmm. Donc la patate, il faut qu'il soit vraiment vraiment très chaud,
bien
écrasé, il ne faut pas de gros mots, il faut une belle pincée de sel et il faut rouler vraiment à l'instant. Il ne faut pas avoir peur que le rouleau ne sorte pas tout de suite.
Ouais.
Il faut juste, ça prend entre 1 et 3 minutes max. Si on voit qu'on galère, on n'arrive pas à rouler, c'est que la pomme de terre n'est pas assez forte en amidon. C'est pas qu'il manque de la farine. Il faut en ajouter peut-être 20 grammes pour l'aider à lier. Mais il ne faut pas non plus abuser parce que ça veut dire qu'il y a un problème sous la température. Donc, ce n'est pas assez chaud. Il y a besoin de chaleur pour lier l'amidon avec...
Et la pomme de terre, tu l'as fait cuire à l'eau ou tu l'as fait cuire au foie?
Non, c'est mieux de le cuire au sel.
Ouais, au sel.
Ouais. Donc parce qu'il ne faut pas qu'il prenne de l'eau, parce qu'il devient humide. Donc l'humidité, il t'empêche de lier la farine à la pomme de terre. Donc moi, je préfère au sel, mais après c'est...
Cuire au sel, c'est tu les mets dans un plat qui va au four.
Au même plat que gastronomique, ou même un assiette de porcelaine très simple qui tient la cuisson au four. Vous mettez le four à 200 degrés, 220. Il faut qu'il soit chaud parce que la température dans la poêle est toujours un peu... Ou dans l'appareil, il est toujours un peu moins chaud. Et on fait un lit de sel, de gros sel, on pose nos pommes de terre tranquillement et on les laisse dedans. Quand elles sont bien fondantes, on épluche, on s'ébrûle un peu les mains. On met 2-3 gants peut-être pour pas se faire vraiment mal parce que ça brûle vraiment.
Ouais, si c'est chaud.
Et après, avec un bon appareil pour ou passer des tomates ou presser des pommes de terre, je sais pas comment il s'appelle en français.
Un presse-purée.
Presse-purée, ouais. Voilà. Un beau presse-purée, c'est très dur de presser les pommes de terre avec un presse-purée. Moi, je préfère les passoires pour les tomates, pour faire les sauces tomates.
Ouais.
Il faut être moins fort. Et après, il faut de la chance. Toujours.
De la chance?
J'ai connu peu de gens qui les font tous les jours bien. Moi, les meilleurs gnocchis de Paris, il ne faut jamais faire de la pub. C'est Ventré. C'est un restaurant. Ouais. Jacopo, il fait les meilleurs gnocchis in town.
Tu te souviens des premiers gnocchis que tu as mangés dans ta vie? Ou peut-être ceux qui t'ont marqué, je ne sais pas.
Ah oui, je me souviens.
Au-delà de cela, justement.
Les plus bons que j'ai mangés, je me souviens. Jacopo, c'était super bon, mais c'était déjà récent. Il y a 15 ans, j'avais mangé des gnocchis fumés. Donc, la pomme de terre était simplement fumée. Ils étaient servis avec du sésame toasté et une velouté de lentilles. C'était très bon. Il y avait des taches d'oursin, un truc comme ça. Très
c'était sympa. Où?
C'était en Sardaigne, c'était un restaurant où j'avais fait un stage qui avait une étoile à l'époque. C'était dans un théâtre lyrique, donc c'était un endroit assez exceptionnel. Le chef aujourd'hui continue à avoir une étoile dans un autre espace. Il s'appelle Roberto Pezza et c'était une des premières claques que j'ai prises. Parce que j'étais habitué à les manger beurre et soja,
oui.
Comme tout le monde. Donc les voir liés à d'autres choses, à du iode, à des trucs très pauvres comme les lentilles, ce reste de la pomme de terre, ils étaient fumés. Ça m'a un peu parlé un peu plus, je me suis dit, ouais.
Merci à Simonet, que vous pouvez retrouver donc chez Racine. Et je rappelle le livre de Pierre-Brice Lebrun, Le petit traité de la pomme de terre et de la frite. Est-ce que je peux finir par un conseil, Laura ?
Ouais, vas-y.
Et est-ce que c'est pas vraiment un conseil ? C'est un peu triste, mais ça marche quand même ?
Ouais.
Alors en fait, donc, c'est un RIP, un peu comme on dit sur les réseaux, c'est un hommage en français. Et c'est la plus vieille chef du monde, je sais pas si tu connais, elle s'appelle Masta Nama. Tu connaissais ?
Non.
C'est une chef indienne en fait qui était filmée par ce que je pense c'est son fils. Et elle avait 106 ou 107 ans. Et elle est décédée il y a pas très longtemps. Et elle partageait des recettes traditionnelles à des millions d'abonnés. Et donc c'était vachement bien, c'était vachement beau et bah, très bon et très bien filmé. Donc si vous connaissez, bah, vous avez... un hommage à rendre, et si vous connaissez pas, vous avez des tonnes de vidéos à rattraper. Donc voilà, bah, Masta Nama sur YouTube. Et c'est la fin de cet épisode. Toutes les infos et adresses évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesecoutes.fr/bouffon, et sur notre carte Mapster où on met tous les restaurants de Paris et de province. On est aussi sur Twitter, bouffonne, et c'est pareil sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer plein de stories quand vous allez dans les restos dont on parle, ça nous fait grave plaisir. Et bah, Bouffon, c'est une émission de Nouvelles Écoutes, figurez-vous, animée par moi, Guillaume Malissen, enregistrée par Alexandre Moniol, réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, monté et mixé par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination Laura Cussard, que vous avez entendu il n'y a pas 5 minutes. Parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, on sera ravis. À la semaine prochaine.